Madame de Sévigné, médecin sans diplôme, par Augustin Cabanès. Dans la belle saison de l'an 1676, Madame de Sévigné, qui s'était rendue à Vichy pour y combattre ce qu'elle nomme si joliment les chicanes de son rhumatisme, répondait à sa fille qui lui conseillait de ne point écrire pour ménager sa main fluxionnée par l'arthritisme. Allez-vous promener, Madame la Comtesse, de venir me proposer de ne vous point écrire. Si les médecins, dont je me moque extrêmement, me défendaient de vous écrire, je leur défendrais de manger et de respirer, pour voir comme ils se trouveraient de ce régime. Il eût été dommage que nos confrères du grand siècle formulassent une aussi barbare prescription, car ils auraient privé la postérité d'un régal délicieux, et nous ne saurions rien aujourd'hui de la divine épistolière. C'est en effet dans ses lettres, écrites sans souci de la publicité, où elle se livre tout entière, dédaigneuse des considérations les plus élémentaires de prudence et parfois de décence, que nous allons trouver matière à incorporer Madame de Sévigné parmi les médecins amateurs. On a déjà tiré de sa correspondance le portrait de la mère et de la grand-mère, du chroniqueur et de l'historien de mœurs. On y a relevé un amour de la nature et des goûts champêtres qui était une nouveauté au XVIIe siècle. Pourquoi n'y chercherions-nous pas des recettes médicales et l'opinion que professait sur notre art la grande dame qui fut, comme en se jouant, un grand écrivain. Ce que la marquise pense des médecins, vous vous en doutez avant que nous vous l'exposions. Une contemporaine de Molière ne pouvait que partager son ironie à l'égard de notre docte corps, et son incrédulité à l'endroit de la science officielle n'est point pour vous surprendre. « J'aime à les consulter pour me moquer d'eux », écrivait-elle à Madame de Grignan. Et un autre jour, ah, que j'en veux aux médecins, quelle forfaiture que leur art! Ailleurs, elle s'écrie, il n'y a qu'à voir ces messieurs pour ne jamais les mettre en possession de son corps. On vient de lui raconter le malade imaginaire. Elle s'esclaffe, après avoir ouï parler de cet élixir dont il faut mettre 16 gouttes dans 13 cuillerées d'eau. S'il y en eut 14, tout était perdu. Et la promenade dans la chambre, une fois la pilule prise, vous vous en souvenez? Le malade devra-t-il marcher en long ou en large? Cela me fit fort rire, narre la marquise, et l'on applique cette folie à tout moment. Madame de Sévigné ne perd aucune occasion de médire de la médecine, ou plutôt des médecins. C'est de l'arrière-main qu'ils ont tué Beaujeu, dit-elle encore. J'ai pensé 20 fois à Molière depuis que je vois tout ceci. J'espère cependant que Madame de Coulanges échappera, malgré tous leurs mauvais traitements. Madame de Grignan, ayant prié sa mère d'introduire un jeune docteur auprès de sa cousine Germaine, la marquise lui répond « Je parlerai à Duchesne. » Duchesne était le médecin de la malade en question. « De votre petit médecin, à qui nous donnerons dans notre quartier quelques malades à tuer, pour voir un peu comment il s'y prend. Ce serait dommage qu'il n'usât pas du privilège qu'il a de tuer impunément. » « Quel plaisir, lui écrit-elle un autre jour, de vous entendre discourir sur tous les chapitres que vous traitez. Celui de la médecine me ravit. Je suis persuadé qu'avec cette intelligence et cette facilité d'apprendre que Dieu vous a donnée, vous en saurez plus que les médecins. Il vous manquera bien quelque expérience et vous ne tuerez pas impunément comme eux, mais je me fierai bien plus à vous qu'à eux pour bien juger d'une maladie. » Quand l'Anglais, le chevalier Talbot, eut fait connaître le quinquina, ce fut un engouement général, et Madame de Sévigné ne perd pas cette belle occasion de nous lancer une de ses flèches. « Ce remède de l'Anglais, qui sera bientôt publié, rend, dit-elle, les médecins fort méprisables avec leur saignée et leur médecine. » Bien peu de membres de la faculté trouvent grâce devant elle. C'est dans tous les temps, d'ailleurs, que l'esprit des malades s'est exercé aux dépens des médecins. Ces épigrammes nous sont d'autant moins douloureuses que nous verrons, au premier danger, ceux-là même qui nous ont le plus raillés revenir à nous en toute humilité. Nous retrouverons bientôt la marquise, toute disposée à subir la loi de qui, présentement, elle maltraite, et nous la verrons, lorsqu'elle souffrira, se plier avec une obéissance aveugle à tout ce qui lui sera prescrit. Mieux que cela, après s'être bien gaussée de la médecine et des médecins, notre moqueuse ne pensera qu'à les imiter. Il faut reconnaître que si Madame de Sévigné est souvent injuste à notre égard, elle n'a pas tout à fait tort lorsqu'elle s'élève contre certains abus de l'ancienne thérapeutique. On sait par exemple combien nos pères étaient prodigues du sang humain. ce que nos ancêtres ont répandu de sang est inimaginable. Selon le mot plaisant d'Émile Faguet, ils ont versé autant de sang pour leur santé que pour leur patrie, et ce n'est pas peu dire. Notez que la marquise s'est soumise à la mode du jour comme tout le monde, mais qu'elle l'ait fait de bon cœur, il serait téméraire de l'affirmer. Dans une lettre du 26 juillet 1668, à propos d'une saignée qu'il avait fallu faire à son cousin Bussy, à la suite d'une chute, elle écrivait ceci. « Au reste, j'ai senti votre saignée. N'était-ce pas le 17 de ce mois ?»« Justement, elle me fit tous les biens du monde et je vous en remercie. Je suis si difficile à saigner que c'est charité à vous de donner votre bras au lieu du mien. » Voilà de la charité, bien entendu, celle qui commence par soi-même. Dans une autre circonstance, notre marquise dit nettement son fait au seigneur à outrance. Parlant d'un frère de M. de Grignan, le mari de sa chère fille, « Il a été rudement saigné, » dit la marquise. « Il voulut résister à la dernière, qui fut la 11e, mais les médecins l'emportèrent. Il leur dit qu'il s'abandonnait donc et qu'il le voulait tuer par les formes. » Cette antipathie pour ce que nous appelons dans notre jargon la phlébotomie était au surplus justifiée si l'on songe que nos pères saignaient à tout propos et hors de propos les enfants à la mamelle comme les vieillards, les anémiques comme les pléthoriques. Même les chirurgiens d'une dextérité reconnue n'étaient pas à l'abri des accidents. Ceci était rare à la vérité. Mais n'est-ce pas déjà trop qu'entre des mains habiles ils aient pu se produire? En l'espèce, nous faisons allusion à Félix, celui-là même qui avait opéré Louis XIV de la fistule et dont la maladresse faillit causer la mort du patient. Voici en quels termes Madame de Sévigné compte l'incident. L'abbé Bigorre me manda que M. Daniel tombât l'autre jour dans la chambre du roi. Il se fit une contusion. Félix le saigna et lui coupa l'artère. Il fallut lui faire à l'instant la grande opération. Et la malicieuse épistolière de conclure « Je ne sais lequel je plains le plus, ou de celui qui l'a soufferte, ou d'un premier chirurgien du roi qui pique une artère. » À vrai dire, la marquise n'est pas coutumière de cette indulgence, et cependant, nous devons reconnaître qu'elle porte en général un jugement assez sensé sur de hautes personnalités médicales qu'on a trop de tendance, de nos jours, à confondre dans un même dédain avec des praticiens de moindre mérite. Ce qu'elle dit de Fagon, l'archiâtre du grand roi, de Bourdelot, le médecin et familier du grand Condé, de M. Dubois qui soignait Madame de Lafayette, montre en quelle estime elle tenait ses savants, ses maîtres de la médecine de leur temps. La marquise prenait volontiers les avis de M. Fagon dans les cas embarrassants, et même, elle les suivait. Le vendredi 27 mai 1678, elle écrivait à Madame de Grignan, alors en Provence, une lettre dont nous extrayons ce passage. Je veux vous rendre compte d'une conférence de 2 heures que nous avons eue avec M. Fagon, très célèbre médecin. Nous ne l'avions jamais vu. Il a bien de l'esprit et de la science. Il parle avec une connaissance et une capacité qui surprend, et n'est point dans la coutume des autres médecins qui accablent de remèdes. Il n'ordonne rien que de bons aliments. Que ne sent-elle tenue au conseil d'hommes éclairés comme Fagon ? Nous n'aurions pas à lui reprocher d'avoir braconné sur notre domaine, d'avoir accordé sa faveur aux pires ennemis de notre profession. Madame de Sévigné, en effet, qui a une méfiance instinctive des médecins diplômés, témoigne d'une crédulité parfaite à l'égard des personnes extra-médicales. Quand par hasard elle accorde sa confiance à un représentant de la faculté, elle en est littéralement coiffée, mais cette confiance ne dure guère. Peu de jours après, elle le quitte pour en prendre un autre, revient au premier, emprunte un troisième, enfin les abandonne tous pour revenir aux remèdes de bonne femme. Et ils étaient nombreux, ces remèdes. Il n'y avait pas de châtelaine, pas de grande dame, qui ne fût engouée de quelque drogue plus ou moins nauséabonde et qui ne la préconisât autour d'elle. Madame de Sévigné a toute sa vie fait de la médecine. Elle aurait vécu de nos jours qu'elle se fût exposée à des poursuites pour exercice illégal. Mais rassurons ses mânes, elle est morte depuis plus de 2 siècles, il y a prescription. La santé de sa fille, de ses parents, de ses amis l'ont occupée très activement. Dans presque toutes ses lettres, elle prodigue les conseils médicaux à ceux qui lui en demandent, souvent aussi à ceux qui ne lui en demandent pas, et force nous est de convenir que son prosélytisme était plus ardent qu'éclairé. En parcourant sa volumineuse correspondance, il ne nous sera pas malaisé de démontrer que Madame de Sévigné mériterait largement le digna est intrare in nostro docto corpore du grand comique. Disons tout d'abord que la marquise se met souvent en scène et tient à instruire ses proches, sa fille en particulier, de ses moindres bobos. À la fin de mai 1661, elle entreprend un voyage à sa propriété des Rochers. En arrivant, elle ressent un malaise qui paraît l'avoir fort effrayée. « J'allais à la messe, dit-elle, en calèche avec ma tante. À moitié chemin, j'eus un grand mal au cœur. Je craignais les suites, je reviens sur mes pas. Je vomis beaucoup. Voilà de grandes douleurs dans le côté droit, de grands vomissements encore, des douleurs redoublées et une grande oppression qui me tenait dès la nuit. L'alarme se met au camp, on envoie chez Péquet, un médecin de ses amis qui l'avait accompagné en Bretagne. Il eut de moi des soins extrêmes. On envoie chez l'apothicaire, on envoie quérir un demi-bain, on envoie chercher certaines herbes. C'est surtout aux herbes, plus qu'à son docteur, qu'elle avait confiance, cela se devine à travers les lignes. Fidèle aux idées de son temps, elle veut bien consentir à une saignée, mais elle n'y met aucun empressement. Nous avons fait connaître son peu de goût pour cette médication. Tout au plus, se résignera-t-elle à se laisser saigner aux pieds, mais elle se récrie sur la même opération qu'on a voulu pratiquer à son petit-fils. « Je ne comprends pas, écrit-elle, qu'elle puisse faire du bien à un enfant de 3 ans avec l'agitation qu'elle lui donne. De mon temps, on savait ce que c'était que de saigner un enfant. » Voilà qui est justement raisonné, et nous sommes loin de la désapprouver. Mais si la saignée lui causait des appréhensions, la purgation ne lui inspirait aucune répugnance. Madame de Grignan, sous la direction d'une mère amateur de purgatifs, avait dû avaler bien des médecines, et comme tous les enfants, elle avait conçu une vive répulsion pour ces désagréables remèdes. Son fils, ayant besoin d'être purgé, la maman avait usé de toute son autorité pour lui faire accepter la médication. Sur quoi la marquise mandait à sa fille « Que vous êtes heureuse que votre enfant ne vous ait jamais vu avaler une médecine. Votre exemple détruirait vos raisonnements. » Quant à elle, elle n'y met pas tant de façons. Elle se purgera dès qu'elle en aura le loisir et qu'il fera plus frais. Ou elle attendra la pleine lune, et quand on aura des nouvelles d'Allemagne. On reconnaît là les préjugés astronomiques, sont-ce bien des préjugés, qui régnaient à cette époque. Pour se purger, comme pour se saigner, il y avait des dates marquées au calendrier qu'on aurait osé enfreindre de peur d'une catastrophe. Maintenant, quel rapport y a-t-il entre l'opportunité d'un purgatif et la guerre des bords du Rhin? Nous laissons à d'autres le soin de l'expliquer. Comme elle ne veut rien nous laisser ignorer, Madame de Sévigné nous dit de quel singulier remède elle use pour se purger. Monsieur Bourdelot la purge avec des melons et de la glace. Elle s'en trouva bien, au surplus, mais elle ne suivit pourtant l'ordonnance qu'en tremblant. Comme nous la comprenons et l'approuvons. Ce qui est certain, c'est qu'elle aimait à se droguer et plus encore, à médicamenter autrui. Lorsqu'elle partait en voyage, elle ne manquait pas d'emporter une infinité de remèdes, propres à guérir toute espèce de maladie. « J'espère, dit-elle, que cette boutique me sera fort utile. » C'était d'ailleurs une bonne précaution dans un pays où on n'avait pas toujours un médecin à sa disposition. À défaut d'un membre de la faculté, Madame de Sévigné recourt à une voisine, à n'importe qui. En Bretagne, elle a fait la connaissance de la princesse de Tarente. Cette princesse, entichée de médecine, distribue ses conseils et ses recettes à tout venant. La marquise n'est pas oubliée dans la distribution, et elle ne tarde pas à se prendre d'une admiration sans bornes pour son docteur en jupon. « C'est elle qui serait mon médecin si j'étais malade, écrit-elle. Elle est habile et m'a promis d'une essence entièrement miraculeuse. » Qu'il a guéri de ces horribles vapeurs. On en met 3 gouttes dans ce que l'on veut et on est guéri comme par miracle. Cette essence, oserons-nous l'écrire, c'était de l'essence. Mais nous préférons céder la plume à la marquise. Pour mes vapeurs, je pris 8 gouttes d'essence d'urine et, contre son ordinaire, elle m'empêcha de dormir. Mais j'étais bien aise de reprendre de l'estime pour elle. Je n'en ai pas eu besoin depuis. En vérité, je serais ingrate si je me plaignais. La marquise avait la foi tenace, car dans un autre passage de sa correspondance, elle parle, avec une sympathie marquée, de l'eau d'émeraude. Or, l'eau d'émeraude, ou plutôt la teinture bleue d'émeraude, était, paraît-il, à base d'esprit d'urine. Les meilleurs remèdes n'ont qu'un temps. La nécessité vient d'en changer. On a vanté à Madame de Sévigné l'eau de la reine de Hongrie. Il suffit, elle va en essayer. Et tout de suite, son enthousiasme déborde. Je m'en enivre tous les jours. J'en ai dans ma poche. C'est une folie comme le tabac. Je la trouve excellente contre la tristesse. L'eau de la reine de Hongrie, nous le savons aujourd'hui, n'était autre que l'alcoolat de romarin, dont la recette se trouve tout au long dans un livre de secrets de 1660 et qui proviendrait d'une reine Isabelle de Hongrie qu'on a parfois confondue avec sainte Élisabeth. Quoi qu'il en soit, Madame de Sévigné raffolait de l'eau de la reine de Hongrie et en prônait l'emploi à toute occasion. On assure que l'illustre Duquesne, tout rude marin qu'il était, en parfumait son linge et sa perruque. Ce spécifique ne fut que plus tard supplanté par l'eau de Cologne et l'eau de Mélisse. Mais revenons à notre marquise. En dépit de l'eau de la reine de Hongrie, et à force de se promener sous les arbres sereins, notre imprudente contractait une affection des plus douloureuses et dont le leitmotiv reviendra dans chacune de ses épîtres. « Devinez ce que c'est, mon enfant, » écrit-elle à sa fille, « que la chose du monde qui vient le plus vite et qui s'en va le plus lentement, qui vous fait approcher le plus près de la convalescence et qui vous en retire plus loin. Ne sauriez-vous deviner? Jetez-vous votre langue au chien. C'est un rhumatisme. » Aussi la voilà disposée à avaler tous les médicaments qu'on voudra lui faire prendre. Pour le moment, c'est la poudre de M. Delorme qui a sa prédilection. Elle s'est purgée une fois avec cette poudre, qui a fait merveille. Elle va encore en prendre. C'est le véritable remède pour toutes ces sortes de maux. On lui promet, après cela, une santé éternelle. Cette poudre, nous en avons donné naguère la composition. Rappelons seulement qu'elle était à base d'antimoine. On y ajoutait parfois, pour en renforcer l'effet, de la poudre de scamonée ou du mercure de vie, probablement du calomel. Excellente formule d'ailleurs, qui n'est pas complètement perdue. La poudre du bonhomme, comme l'avait baptisée Madame de Sévigné, se conservait très bien. C'était un remède de canicule, mais qu'on pouvait garder pour l'hiver. La marquise souvent se plaint que sa fille ne veuille pas prendre régulièrement de cette poudre, qui purge beaucoup plus doucement qu'un verre d'eau de fontaine, ne donne pas la moindre tranchée, pas la moindre douleur, et ne fait d'autre effet que rendre la tête nette et légère, et capable de faire des vers, si on voulait s'y appliquer. Ce serait mal connaître notre marquise que de supposer qu'elle n'aura pas d'intermittence dans son admiration pour la médecine ou le médicament à la mode. Comment résisterait-elle au sourire de son joli médecin, le bel Ammonio, autrement séduisant que le vieux Delorme, et qui l'encourage, du regard, à prendre le répugnant remède qu'il lui conseille. De nouveau, laissons parler la divine. Vous ne vous en plaindrez pas, j'imagine. J'avais auprès de moi un joli médecin qui me consolait beaucoup. Il ne me dit pas une parole qu'en italien. Il me conta pendant toute l'opération 1000 choses divertissantes. C'est lui qui me conseilla de mettre mes mains dans la vendange, et puis une gorge de bœuf, et puis, s'il en est encore besoin, de la moelle de serre et de l'eau de la reine de Hongrie. Mais il était un membre de la famille Sévigné qui continuait à accorder ses préférences à la poudre du bonhomme, à laquelle sa mère avait renoncé, pour les répugnantes médications qui avaient sa faveur momentanée. C'était son fils, le marquis de Sévigné. Le jeune marquis déplore que sa mère ait changé d'avis à l'égard du remède inventé par M. Delorme. Il peste contre sa sœur, qui a osé médire de cette drogue fameuse. « Si ma mère, mande-t-il à Mme de Grignan, s'était abandonnée au régime de ce bonhomme, et qu'elle eût pris tous les soirs de sa poudre comme il le voulait, elle ne serait pas tombée dans cette maladie, le rhumatisme, qui ne vient que d'une réplétion épouvantable d'humeur. » Et il rappelle les propres paroles de Mme de Grignan. Vous moquez-vous, mon frère, de vouloir faire prendre de l'antimoine à ma mère? Il ne faut seulement que du régime et prendre un petit bouillon de séné tous les mois. »
Voilà ce que vous disiez, ironise le marquis.
Adieu, ma petite sœur, je suis en colère quand je songe que nous aurions pu éviter cette maladie avec le remède qui nous rend si vite la santé. Ces alarmes furent de courte durée. Notre commère, je devrais dire notre consoeur, eut au fait de les dissiper en s'entichant d'un nouveau remède. Il s'agit de l'eau de lin qui devait la préserver de la néphrétique. Mais son engouement fut cette fois de courte durée. L'eau d'arquebusade, la toile Gautier, l'emplâtre à la reine, ainsi nommé parce qu'il avait prétendument guéri la reine Marie-Thérèse de convulsions éclamptiques, se partagent tour à tour ses faveurs. On lui a vanté l'huile de scorpion. Vite, elle se dépêche d'en essayer. Sa fille lui a envoyé une sorte d'onguent noir. Va pour l'onguent noir. En échange, elle lui enverra une recette d'huile de noix et d'eau-de-vie propre à se frotter l'épine dorsale et dont on lui a dit le plus grand bien. L'or potable, le sel polycreste, dont le sel de saignette rappelle la composition, sont expérimentés par elle successivement. Un jour, elle apprend qu'un certain chevalier Digby assure la guérison des plaies par la poudre de sympathie. Elle envoie guérir le remède et l'applique sans retard. Application des plus faciles, il suffisait de répandre de la poudre mystérieuse sur le sang qui avait coulé de la blessure, et au même instant, le blessé, fût-il loin de l'endroit où se pratiquait cet enchantement, se trouvait soulagé et parfois guéri. N'était-ce pas merveilleux? Un médecin, pour efficace qu'il soit, ne saurait guérir à tout coup. Il faut donc avoir recours à de nouveaux, qui n'ont pas encore été expérimentés. Et tour à tour, la marquise prendra, après l'eau de lin su nommée, c'est Audelin qui a conservé à la France le grand ministre Colbert, du pain de rose, de l'eau de cerise, du crocus, qui n'était autre que du kermès, du bouillon de bétoine et du bouillon de chicorée sauvage, destiné celui-ci à produire des effets merveilleux et qui ne paraît pas avoir été moins favorable à sa fille. Ah, cette chère enfant, que de sollicitude on a pour elle! Rarement l'amour maternel a été poussé plus loin. La moindre égratignure dont se plaint la comtesse devient, pour cette bonne mère, prétexte à une foule de conseils et de recettes médicales. Madame de Grignan avait quitté Paris pour la Provence à la fin de janvier 1671. La première lettre maternelle est datée du 6 février. La santé de la jeune comtesse n'est pas très bonne. Elle avait fait une fausse couche peu de temps après son mariage, et elle était à nouveau enceinte. Madame de Sévigné se tourmente d'un voyage qu'a fait Madame de Grignan avec son mari à Marseille. On vous aura tiré du canon qui vous aura ému, cela est très dangereux. On dit que Madame de Bié accoucha l'autre jour d'un coup de pistolet qu'on tira dans la rue. Au nom de Dieu, si vous m'aimez, reposez-vous souvent et surtout prenez vos mesures pour accoucher à Aix, au milieu de tous les prompts secours. Vous savez comme vous êtes expéditive, rangez-vous-y plus tôt que plus tard. Entre-temps, elle lui donne des nouvelles de ce qui se passe à la cour et à la ville. Des bruits courent sur le compte des filles d'honneur de la reine. Voici une anecdote qui les concerne et nous fait du même coup connaître une médication de l'époque contre la rage. « Au reste, mande Madame de Sévigné à sa fille, si vous croyez les filles de la reine enragées, vous croyez bien. Il y a 8 jours que Madame de Ludre, Couette-Logon et la petite de Vouvray furent mordues d'une petite chienne qui était à Théoulon. Cette petite chienne est morte enragée. De sorte que Ludre, Coët-Logon et Vouvray sont partis ce matin pour aller à Dieppe se faire jeter 3 fois dans la mer. Cet usage de traiter la rage par les bains de mer remontait à une lointaine antiquité. S'il faut en croire la légende, le poète Euripide, mordu par des chiens enragés, fut plongé dans la mer par des prêtres égyptiens. Au XVIIe siècle, c'était devenu une pratique courante. Est-il besoin de dire que cette médication était surtout efficace quand la bête qui vous avait mordu n'avait pas la rage? Le remède ne pouvait agir que par autosuggestion. Cependant, en dépit des progrès de la science, le préjugé de plonger dans la mer subsiste encore, paraît-il, dans quelques départements limitrophes de l'océan. Mais reprenons cette correspondance qu'on a toujours charme et profit à feuilleter.
Comment, Madame de Grignan prend encore du chocolat? Sa mère en est suffoquée d'indignation. Cette chère enfant ignore-t-elle donc que le chocolat peut tourner le sang d'une femme enceinte? Et Madame de Sévigné cite à sa fille l'exemple de la marquise de Coëtlogon, qui prit tant de chocolat, étant grosse, qu'elle accoucha d'un petit garçon noir comme un diable, qui en mourut. La marquise était-elle si persuadée que cela de la nocivité du chocolat? Il n'y semble guère, d'après son propre aveu. « J'en prie avant-hier, dit-elle, pour me nourrir afin de jeûner jusqu'au soir, et une autre fois j'en prie pour digérer mon dîner, afin de bien souper. Il m'a fait tous les effets que je voulais. Voilà de quoi je le trouve plaisant, c'est qu'il agit selon l'intention. » La faculté avait donné son approbation au chocolat. La reine Marie-Thérèse en grignotait sans trêve. En fallait-il plus pour le mettre à la mode? Madame de Sévigné, comme toujours, suivait la mode. Il en fut de même pour le café. On rappelle sans cesse le réquisitoire de Madame de Sévigné contre le café. On l'accuse d'avoir écrit cette phrase, dont ses ennemis se sont fait une arme contre son jugement. Racine passera comme le café. Mais c'est en réalité à Voltaire, ou plutôt à la harpe, qu'elle est imputable. Le café n'a évidemment pas échappé à sa verve railleuse. Elle le trouve échauffant, elle félicite sa fille d'être revenue du café, qui précipitait son sang et, à son avis, causait sa maigreur, et lorsqu'elle voit que Madame de Grignan persiste à vouloir en prendre, elle lui conseille de l'additionner de miel de Narbonne au lieu de sucre. Elle l'engagera plus tard à le mêler avec de la crème bien sucrée. Cela s'appelle du lait cafeté ou du café laité, et il n'est rien de tel pour la poitrine et pour le rhume. Voilà une propriété du café à la crème que nous ne soupçonnions pas. Le thé passait lui aussi pour un médicament. Scarron en faisait presque journellement usage. Madame de la Sablière avait imaginé d'en prendre mélangé à du lait. Racine s'en fit servir tous les matins dans les dernières années de sa vie. La princesse de Tarente en absorbait jusqu'à 12 tasses par jour, et le landgrave de Hesse-Cassel jusqu'à 40 tasses. En 1684, Madame de Sévigné écrivait à Madame de Grignan « J'ai vu la princesse qui parle de vous, qui vous aime, et qui prend tous les jours 12 tasses de café. Cela, dit-elle, l'a guérie de tous ses maux. Elle m'assure que le landgrave en prenait 40 tasses tous les matins. Mais, madame, ce ne peut être que 30. Non, c'est 40. Il était mourant. Cela le ressuscite à vue d'œil. » Disons-le en passant, l'habitude du thé de 5 heures, 5 o'clock tea, si répandu aujourd'hui, ne date que de la fin de l'avant-dernier siècle. En février 1787, Madame d'Oberkirch écrivait « Une mode qui tente à se répandre à Paris est celle du thé dans l'après-midi. Quelques étrangères l'ont apporté et chacun les imite. La princesse Galitzine nous en donna un ce jour-là où se trouvaient toutes les dames russes. » Mais cette digression nous éloigne de notre sujet. Hâtons-nous d'y revenir. Nous voudrions vous montrer Madame de Sévigné dans son rôle de matrone, puis dans celui de grand-maman. Comme à son ordinaire, elle est prodigue de conseils. Bien qu'elle se défende de toute inquiétude, elle engage sa fille adorée à redoubler de précautions, afin d'éviter les accidents. « Au nom de Dieu, mon enfant, conservez-vous, évitez les occasions d'être effrayée. Je n'approuve guère d'avoir voyagé dans votre 7e mois. » Et elle ajoute, toujours anxieuse, « Quelle est cette douleur dans la hanche? Votre garçon se serait-il changé en fille? Prenez garde. Les garçons ne sont pas aussi faciles à conduire que les filles. Ils veulent quelquefois s'échapper par le 7e. » L'événement se rapproche. « Avez-vous votre sage-femme auprès de vous afin de vous accoutumer à son visage? Et votre garde? Et vos femmes se souviennent-elles de tout ce que faisait Madame Moreau, une sage-femme en renom? Avez-vous au moins la prudence de ne pas parler quand vous avez la fièvre? Que vous dirai-je enfin? J'ai la tête pleine de ces choses. Je vous en parle, c'est naturel. Je vous ennuie, cela est naturel aussi. » Elle ne sera pleinement rassurée que quand la grande affaire sera passée. Voulez-vous connaître le régime des accouchés au temps de Madame de Sévigné? Une de ses lettres va nous renseigner. Je ne suis pas contente de vous. Il faut que je vous gronde. Vous avez traité votre accouchement comme celui de la femme d'un colonel suisse. Vous ne prenez pas assez de bouillon. Vous avez capté dès le 3e jour. Vous vous êtes levé dès le 10e et vous vous étonnez après cela si vous êtes maigre. Cette maigreur préoccupe toujours la marquise. Elle recommande à sa fille de prendre de l'eau de poulet. Comme cette eau n'a pas produit les effets qu'elle en attendait, elle conseille à la jeune femme quelque chose de plus substantiel. « Préparez-vous, lui écrit-elle, à prendre du lait de vache. Cela vous rafraîchirait et vous donnerait un sang raisonnable, qui n'irait pas plus vite qu'un autre et vous remettrait dans l'état où je vous ai vu. Engraissez. Tant que vous serez maigre, vous ne serez pas guéri. Puisse-t-on avoir quelque peine à vous lasser ? Je hais de voir si visiblement la côte d'Adam en votre personne. Je n'aime pas que votre gorge soit comme celle d'une personne éthique. Et soit pour le sang échauffé, soit pour la poitrine, vous devez toujours craindre le dessèchement. » Malgré l'eau de poulet, malgré le lait de vache, Madame de Grignan a la poitrine prise. Comme une de ses belles-sœurs est très sourde, Madame de Sévigné craint qu'elle ne se fatigue la poitrine à lui parler fort. Ah, si elle voulait consentir à prendre du lait d'ânesse! Une de ses amies a été remise sur pied miraculeusement par ce simple moyen. Elle avait une toux qui lui ôtait la voix. Elle revient à vue d'œil avec du lait d'ânesse le soir et le matin. Pourquoi se priver d'un si sûr et si salutaire remède? Madame de Grignan se plaint d'avoir mal aux jambes. Elles sont froides et douloureuses. C'est la faute au rhumatisme de sa mère. Mais celle-ci, plus avisée, lui écrit « Si vous ne tenez pas vos jambes chaudement, vous ne serez jamais soulagée. Quand je pense à ces jambes nues 2 ou 3 heures le matin pendant que vous écrivez, mon Dieu, ma chère, que cela est mauvais !» La marquise a parfaitement raison, et tous les médecins seront de son avis, mais leurs objurgations ont-elles jamais servi à changer les décrets de la mode, même quand celle-ci est meurtrière? Un peu plus tard, c'est une consultation en règle de Madame de Sévigné pour son petit-fils. « Gardez-vous bien, » mande-t-elle à sa fille, « de faire raser le petit marquis. J'ai consulté les habiles, c'est le moyen d'ébranler son petit cerveau, de lui faire avoir des fluxions, des maux d'yeux, des petites dents noires. Enfin, il n'est pas assez fort. Faites couper ses cheveux fort courts au ciseau. Voilà tout ce que vous pouvez faire présentement. » Dans une autre lettre, il s'agit d'orthopédie. Pour sa taille, c'est une autre affaire. On vous conseille de lui donner des chausses, pour voir plus clair à ses jambes. Il faut savoir si ce côté plus petit ne prend point de nourriture. Il faut qu'il se démène. Il faut mettre un petit corps, un corset, un peu dur qui lui tienne la taille. Et une autre fois. Ne soyez point en peine de la santé de votre enfant, ni saignée, ni médecine, ni rien du tout. Un bon appétit, un doux sommeil, un sang reposé. Voilà ce qu'un médecin pourrait lui ôter, si nous le mettions entre ses mains. Mais c'est toujours la santé de Madame de Grignan qui est l'objet principal des soucis de sa tendre mère, et celle-ci, parfois, bien inconsidérément, comme tant de personnes de notre connaissance, d'ailleurs, lui vante quelques remèdes qui vient de réussir à une de ses amies, sans réfléchir un seul instant que les tempéraments sont différents et que ce qui modifie la constitution ou les humeurs, comme on disait jadis, de l'un reste inefficace sur d'autres. Madame de Lafayette, toujours valétudinaire, s'enquiert de tous côtés de ce qui pourrait lui rendre des forces. On lui a conseillé des bouillons de vipère, et elle en a retiré les meilleurs effets. Pourquoi Madame de Grignan n'en essaierait-elle pas à son tour? Le 20 octobre 1679, la marquise demande à sa fille comment elle va s'y prendre pour préparer ce bouillon sauveur. On coupe la tête et la queue de cette vipère, on l'ouvre, on l'écorche, et toujours elle remue. Une heure, 2 heures, on la voit toujours remuer. Nous comparâmes cette quantité d'esprit si difficile à apaiser à de vieilles passions et surtout à celle de ce quartier, Luxembourg, où habitait la grande mademoiselle, alors follement éprise de Lauzun, ce cadet de Gascogne qui finira par se faire épouser. De son côté, le marquis de Sévigné s'empresse de recommander la même drogue à sa sœur, mais en lui faisant observer qu'elle devra prendre de véritables vipères en chair et en os, et non de la poudre desséchée, qui est le plus souvent sans action. La raillerie aurait ici matière facile à s'exercer, si nous n'étions obligés d'avouer que la vipère figurait encore dans nos pharmacopées il y a 40 ans à peine. qu'elle entre pour une part dans cette mixture complexe qui se nomme la thériaque, et qu'on en retrouverait, sans peut-être beaucoup chercher, des vestiges dans certaines officines de province, au fond de vieux pots où depuis des siècles elle demeure enfermée. C'est toute la thérapeutique d'autrefois que Madame de Sévigné nous remet en mémoire. Et si elle en tient pour les plantes, ce que nous nommons les simples, de cela nous ne saurions que l'approuver. Madame de Grignan ayant été prise d'un violent mal de gorge, « C'est un mal fort sensible d'avoir une amygdale enflée, » écrit la marquise à sa fille. « Cela s'appellerait une esquinancie, si l'on voulait. »« Consolez-vous, » dit l'excellente mère, « et guérissez-vous avec votre bonne pervenche, bien verte, bien amère, mais bien spécifique à vos maux, et dont vous avez senti les grands effets, et rafraîchissez-en cette poitrine enflammée. » Elle se plaint ensuite que les médecins donnent à sa fille des médicaments trop violents. « Nos capucins, » ajoute-t-elle, « sont ennemis du polycreste. Vous avez été bien malmenée, ma pauvre bonne. » Ces capucins, dont il est longuement question dans la correspondance de Madame de Sévigné, méritent de vous être présentés. Ils ont joui d'une voix considérable au XVIIe siècle et qui était pour une bonne part justifiée. Il en est deux surtout dont le nom nous a été conservé, l'abbé Rousseau et son collègue Aignan. Louis XIV leur avait donné un appartement au Louvre pour confectionner leurs remèdes, d'où le nom qui leur est resté de « Capucins du Louvre ». À l'abbé Rousseau, on doit la formule du laudanum de Rousseau, qui se trouve à peine modifiée dans nos codex actuels. Il serait aussi l'auteur, mais cette fois avec la collaboration du frère Aignan, du fameux baume tranquille, qu'on emploie communément, mais qui ne contient plus, comme à l'origine, autant de gros crapauds vifs qu'il y a de livres d'huile ou à peu près, ce qui ne l'empêche pas d'agir sans cette addition. Madame de Sévigné prétendait s'être guérie de ses douleurs grâce au baume tranquille. Aussi ne manque-t-elle pas d'en conseiller l'usage autour d'elle. C'était sans doute un baume bien précieux, car la marquise recommande d'en user avec la plus grande parcimonie. Ce baume est souverain, explique-t-elle à sa fille. Mais ce n'est pas pour un rhumatisme, il en faudrait des quantités infinies. C'est pour en mettre 8 gouttes sur une assiette chaude et le faire entrer dans l'endroit de votre côté où vous avez mal, et le frotter doucement jusqu'à ce qu'il ait pénétré à loisir, et puis un linge chaud dessus. Et si l'on veut en augmenter l'effet, on devra ajouter quelques gouttes d'essence d'urine. Vous demanderez au plus tôt, dit la marquise en terminant, si vous voulez que j'envoie ma petite bouteille, ou si vous voulez en emprunter. C'est un baume précieux qui me le serait infiniment s'il vous avait guéri et que je n'ai pris que pour vous. Ce baume était en effet proprement miraculeux. Il guérissait la néphrétique ainsi que le mal de gorge le plus violent. Mais ne croyez pas que les bons pères tenaient leur baume pour une panacée. Selon le cas, tantôt ils recommandaient de la poudre d'yeux d'écrevisse dans du lait, tantôt de la manne, s'il y avait lieu de désobstruer les viscères. Mais il n'était pas pour le sang de lièvre. Ce sang fut-il de lièvre couru? Les capucins se moquaient ouvertement de ce dernier remède, dont la marquise se servait, si l'on peut dire, à leur nez et à leur barbe, encore qu'ils ne l'approuvassent pas, chose qui n'altéra en rien du reste les bons rapports que les religieux et la marquise entretenaient. Le baume des capucins ayant cessé de lui plaire, la marquise y renonce pour la fameuse poudre de sympathie. Le baume tranquille ne faisait plus rien, écrit-elle. C'est ce qui me fait courir avec transport à votre poudre de sympathie, qui est un remède tout divin. Combien se montrait-elle plus avisée lorsqu'elle vantait le remède de l'anglais, c'est-à-dire le quinquina. Dans son enthousiasme, elle déclarait ce médicament aussi bon pour la colique que pour la fièvre. La mise au point se fera plus tard. Mais n'est-ce pas déjà beaucoup d'avoir vu, à travers les brumes de l'avenir, la destinée de ce remède qui fut à ses débuts violemment combattue? Là encore où la marquise fait preuve de préscience, c'est en se montrant partisan déclaré de la médication thermale. Vichy, Bourbon, l'Archambault ont reçu sa visite, et l'on se rappelle les pages pittoresques que son séjour dans ces stations nous ont values. Sur la manière dont on prend les eaux à Vichy, elle écrit « On va à 6 heures à la fontaine, tout le monde s'y trouve, on est moins matinal aujourd'hui. On boit et l'on fait une fort vilaine mine. On tourne, on va, on vient, on se promène, on entend la messe, on rend ses os, on parle confidemment et la manière dont on les rend. Il n'est question que de cela jusqu'à midi. Après la boisson, la douche. À une assez bonne répétition du purgatoire. On est toute nue dans un petit souterrain où l'on trouve un tuyau de cette eau chaude qu'une femme vous fait aller où vous voulez. Cet état, où l'on conserve à peine une feuille de figuier pour tout vêtement, est une chose assez humiliante. Derrière un rideau se met quelqu'un qui vous soutient le courage pendant une demi-heure. Ce quelqu'un, c'était un médecin de Ghana, fort honnête garçon, point charlatan, dont Madame de Sévigné se déclare satisfaite. Sans doute était-il aux petits soins pour elle, et lisait-il bien, car après avoir enveloppé la patiente de couverture, l'avoir fait transpirer abondamment, on la laissait 2 heures dans son lit, tandis que le médecin lui faisait la lecture, ce qui prouve qu'il avait des loisirs. Cette première cure de Vichy ne semble pas avoir produit l'effet qu'en attendait la marquise. On l'engage à se rendre au Mont d'Or, mais elle s'y refuse. À moins que d'être paralytique, on ne hasarde pas un bain de cette horrible chaleur. Et pour guérir des maux qui ne sont de nulle conséquence, on ne veut point gâter toute une santé et une machine qui est dans son meilleur état. Madame de Sévigné n'ira donc pas au Mont d'Or et reviendra à Paris à petite journée. À son retour, le bonhomme de Lorme la blâme de n'être pas allé à Bourbon plutôt qu'à Vichy. Cela ne l'empêchera nullement de faire une seconde saison dans cette dernière station. Cette fois, elle y resta 16 jours, but beaucoup d'eau, mais ne put supporter la douche. Plus tard, elle essaiera de Bourbon. Elle y fera 3 semaines de séjour avec 16 jours de boisson, 9 bains, 3 médecines, 2 jours de repos. Grâce à Madame de Sévigné, nous sommes instruits des stations en vogue à son époque. Les eaux de Ballaru, les sources de Vals, les eaux de Forges en Normandie sont parmi les plus réputées. Louis XIV était dans son rôle en défendant la science officielle contre les remèdes secrets et les charlatans de toute espèce. Ces pratiques que Madame de Sévigné et autres grandes dames de son temps encourageaient à l'envi ont-elles complètement disparu? Il serait vain de le prétendre. Le malade ira toujours à qui affirme pouvoir le guérir. C'est surtout à propos de la médecine que les plus belles intelligences ont le privilège de déraisonner, croyant pouvoir s'affranchir des connaissances techniques, comme si l'instinct seul pouvait suppléer à une science des plus complexes. Ainsi s'achève Madame de Sévigné, médecin sans diplôme, d'Augustin Cabanès.